Bonsoir. Ah, toujours pas d'image, super. Bonsoir, je suis Philippe Fabry. Nous sommes le 15 mars 2006, il est 21h32. Désolé, j'ai parlé dans le vide, c'était n'importe quoi. À vrai dire, c'est une émission spéciale municipale. Et oui, c'est minimaliste ce soir, mais je crois que c'est raccord avec le côté, on va dire, le côté trépidant de l'actualité, si vous voulez. C'est-à-dire que très honnêtement, je commençais à regarder les résultats de l'élection. Je me suis dit, est-ce que ça vaut bien le coup? Est-ce que ça vaut bien le coup de commencer? Et surtout que je regardais, parce que franchement, j'ai suivi un petit peu les premiers résultats sur BFM TV. Parce que je trouve que c'est là que ça s'affiche le mieux en direct, sur les bandeaux et tout ça. Et ça ronronnait grave. Franchement, je trouvais ça super chiant. Alors, c'était pas motivant pour faire une émission. Là, je me suis installé en bas avant de lancer l'émission. Je me suis dit, tiens, tu vas faire un petit tour sur le Telegram, tu vas regarder un petit peu ce qui se dit. Du coup, j'ai oublié de brancher le micro et la caméra, ce qui vous explique que j'ai lancé l'émission en me disant bah, c'est bon, tout va bien, mais oui, sauf que c'était pas branché. Et en fait, mais juste avant de lancer l'émission, c'est aussi ça qui a fait que j'étais pas méga motivé. Je regardais sur le Telegram et je voyais les gens qui convenaient avec moi. Enfin, c'était pas une impression que j'avais que ça ronronnait un peu sur BFM. Donc ils ont dit allez voir TF1, c'est la foire, il y a de l'action, etc. Je me suis dit ah, très bien. Donc je suis allé sur TF1, je vais sur TF1, je vois les pubs qui passent, vous savez, quand vous lancez une chaîne en direct, je suis ok, j'attends. Et là, tout d'un coup, je vois Pathé avec la musique avant un film. Alors je sais qu'est-ce que c'est. Et en fait, c'est parce qu'ils ont déjà lancé le film, un truc, ça me l'a dit, avec Danny Boone. Et je me suis dit, c'est vraiment l'ambiance ce soir, c'est vraiment où tu mets TF1 pour voir ce qui se passe. Les mecs, ils ont déjà lancé le film, tellement c'est chiant, quoi. Donc on va essayer de faire ça un petit peu interactif, j'ai pas grand chose à voir, si, quelques petites, j'ai essayé de suivre quand même ce qui se disait, quelques petites observations à la base, mais je vais pas vous faire de gros exposés. La première que j'ai entendu parler un petit peu c'était Manon Aubry qui parlait immédiatement de faire un front antifasciste, donc là je me suis dit, ça annonce la couleur. Ils veulent vraiment jouer cette carte-là pour essayer d'obtenir des alliances, notamment avec le PS. J'ai vu Olivier Faure, lui, qui disait que l'heure était grave, etc. Qu'est-ce qu'il a employé? Il a employé une formule à un moment, je me suis dit, ça, c'est un truc intéressant. Enfin, c'est pas très intéressant, mais c'est pas si intéressant, finalement, parce que ça m'est sorti de l'esprit. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu passer Retailleau, mais j'ai même pas écouté parce qu'il me donne pas envie de l'écouter. Je suis désolé. J'ai vu passer Édouard Philippe qui lui était très content. On a l'impression qu'il est le mec qui a senti qui a frôlé le bus, quoi. Donc ça va. Il est toujours vivant, 43%. Bon, a priori, ça devrait passer pour lui. Et après, on est quand même pas mal en retard sur le résultat des grandes villes, je trouve. Moi, ici à Toulouse, je sais pas du tout où ça en est. J'ai vu passer des appréciations, mais il n'y a rien. Il semble qu'il y a quand même une poussée de la... Alors, tout le monde semble s'accorder à dire qu'il y a une poussée à la fois de la droite et l'extrême droite, mais en fait, ça va chercher très loin. Ah si, voilà. C'est ça. Olivier Faure, il a dit, entre une extrême droite et une droite de moins en moins républicaine. Donc, même, vous voyez, même les républicains sont de moins en moins républicains. Quoi. Je vois. Ah, alors là, on a Paris. Emmanuel Grégoire, 37%, Rachida Dati, 24%, Bournazel, 12%, Sophia Chikirou, 12%. En même temps, what did you expect à propos de Paris, quoi? Je veux dire, le côté, Paris pourrait peut-être basculer à droite, moi je me méfie. Non, alors peut-être que... Alors, il y a l'abstention, la question de la participation qui est vaguement intéressante. De ce que j'ai vu, on est à 57%. Ce qui était mieux que 2020, mais 2020, il y avait tous les vieux qui n'étaient pas allés voter parce qu'ils avaient peur du Covid. C'est moins bien que 2014 à 63%, mais c'est mieux que 2008 à 56%. Voilà. Donc, grosso modo, ça progresse par rapport à 2008, mais pas 2014, donc je me rends pas bien compte ce que ça veut dire. Et à ce stade... À ce stade, si, il y a Marseille, c'est intéressant, parce que Marseille, semble-t-il, le RN et la gauche sont semble-t-il à, attendez, je vais vérifier ça, sont semble-t-il à égalité. Ça est intéressant parce que c'est une ville en gros qui serait disputée entre Benoît Payan, PS-PCF écologiste, et Franck Alizio RN. Ils seraient tous les deux à 35,4%. Et ensuite, il y aurait Delogu qui est à 12%. Et Martine Vassal et la Renaissance qui est à 12,3%. Voilà. Apparemment, gros succès de Guiraud à Roubaix, ai-je vu. Donc il y a quand même une poussée clairement de gauche dans les villes. Et après, mais aussi une poussée RN. Voilà. Mais sans que forcément RN ait tellement de chances d'être élu, parce que ça reste les villes, quoi. Et c'est un petit peu la faiblesse de cette élection, c'est que il n'y a question en fait que de la France des villes. Parce que en dehors, dans la France périphérique, au fond, la plupart des maires sont sans étiquette. Donc, du coup, ça entre pas dans les résultats, si vous voulez, du RN ou d'autres choses. Et du côté. Alors que forcément, on se concentre sur les villes. C'est pour ça d'ailleurs que traditionnellement, c'était des élections où tout le monde s'extasie en général sur les résultats des écolos, un petit peu comme aux européennes. Par contre, ça, c'est une chose intéressante, c'est que les écolos en tant que tels, enfin, de ce que j'ai vu des résultats, me semblent quasi inexistants, quoi. C'est à chaque fois, c'est dans la gauche. Mais il y a clairement plus cet élan écologiste, ce qui semble correspondre avec le fait que plus personne ne parle du climat, n'est-ce pas? Alors, il y a encore une espèce d'habitude qui continue à fonctionner dans le rang des journalistes, mais en dehors de ça, le climat, c'est pas ce qui ressort. Alors moi, ça m'intéressait surtout, ce soir, je vous ai dit, je pense que ce sera une élection intéressante, en tout cas qu'il en sortira des choses intéressantes dans le cadre de l'évolution générale du pays. Mais le fait est que soir de premier tour, en fait, c'est très très compliqué, très très compliqué à déterminer parce que il y a peu de données nationales en fait. Il n'y a pas de carte, c'est assez difficile de réfléchir là-dessus. En plus, j'ai eu l'impression, très honnêtement, que tout le monde cherchait à aller super vite, quoi, à évacuer ça. C'était hallucinant. Je crois que Bardella, il a dû faire son discours, il devait être 8h10, un truc comme ça. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il a? Il va nous annoncer un. Non, alors il parlait de la progression du truc et tout. Mais le mec avait pas envie de rester là jusqu'à 22h. Alors que souvent, vous vous faites attendre un peu, vous voyez, vous essayez de nourrir l'attente, que les gens disent, ah, il y a Bardella qui va parler, tout ça. Alors donc régulièrement, on va vous montrer le QG du gâteau. Là, rien. Il évacue le truc, tac, je pense qu'il est parti bouffer. Mais pareil, les autres aussi, ils ont parlé très vite. Hein, je crois, Bompard pour LFI, il a parlé à 8h30, un truc comme ça. Enfin, tout ça est allé très très vite. Et honnêtement, je vais être tout à fait sincère avec vous, j'ai jamais beaucoup suivi les soirées d'élections municipales. Et surtout, vu que la dernière remonte à 2014, la dernière vraie, hein, parce que bon, en 2020, on avait autre chose à foutre. Je me souviens pas trop comment ça se passe en général au premier tour. Si ça va beaucoup plus vite, je saurais pas dire. Donc je vais voir un petit peu ce que vous racontez vous, si vous avez des questions sur le sujet, si vous voyez des infos particulières qui ressortent. Déjà, je vois mon cher Iruma qui me passe quelques messages. Alors, nous avons Carciofo, membre depuis 48 mois. Et oui, merci beaucoup pour ça. Merci de célébrer en ce 15 mars l'anniversaire de la mort de Jules César. Il le méritait. Sic semper tyrannis. Dans cette maison, Jules César est un héros. Non. Docteur Sherlock, merci pour le don, bonsoir. Pourquoi les grandes villes sont plus à gauche alors qu'il me semble que ce n'était pas le cas au XXe siècle? Qu'est-ce qui a changé? Alors ça, c'est intéressant. Eh bien, vous savez quoi? Vous savez quoi? Puisque la soirée est assez chiante a priori, enfin, en attendant d'avoir des résultats plus affinés, peut-être que la semaine prochaine sera plus intéressant. On refera une spéciale la semaine prochaine, obligé, hein. Mais ce qu'on va faire, mes petits amis, c'est on va aller chercher ça en direct. On va aller chercher ça en direct. Et comme ça, même si on se sera fait chier, eh ben, On mourra moins bête. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait les flemmards et on demande directement à Grok, ou est-ce qu'on va tenter d'aller chercher. Allez. Est-ce qu'on va faire un petit tour par Wikipédia? On va faire ça. On va faire ça. On va aller chercher élections municipales en France. Taxe, on s'en fout. Ouais, non. Oh, on les a toutes. Alors, vous savez quoi? On va repartir, on va regarder la. Mais alors, je sais pas quelle tête ça a. Parce que ça fait des. Ah ouais, mais c'est une carte vierge. Donc c'est moche, ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça? Ça va pas marcher. Alors. On n'a pas de résultat. On n'a pas de carte. Avec des. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? C'est nul. C'est nul, nul, nul. Merde, ouais. Pff. Oh, ça va être chiant à étudier ça. Ah, maire sortant. Ouais, mais c'est pas sur les grandes villes ça. J'aurais bien aimé avoir une carte avec juste des couleurs, qu'on voit les villes en couleur, quoi. Vous voyez, qu'on puisse. Je sais pas c'est quoi cette carte de merde. Bon, voyons si. Ah, mais je suis bête. C'est l'élection de 2026, ça. C'est normal que la carte soit vierge. Alors, voyons. 2020. 2020. Ah ouais, mais si c'est pour me faire aussi une carte comme ça, c'est pas cool les gars. On va essayer de faire autrement. Élection municipale 2020 carte. Voir si on a quand même des trucs à peu près. Ouais, c'est un truc comme ça qu'il nous faut. Ah. Peut-être que le site est pas mal. Résultats électoraux de multiples façons. Non, c'est chiant finalement. Vous voulez m'obliger à poser la question à Grok, c'est ça? Ben, on va poser la question à Grok. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Je vais lui poser la question à Grok. Attendez, je vais lui poser là où je suis connecté, parce que c'est le bazar, tout ça. Alors, quelle était la question? Tiens, revoyons. Comment il m'a demandé ça, docteur Sherlock? Il m'a demandé. Il m'a demandé. Pourquoi les grandes villes sont. Oui, alors on va demander les grandes villes. Était-elle plus à gauche? À mon avis, oui. Hein. Que le reste des communes lors des élections municipales, on va dire quoi, au début du 20e siècle? On lui pose la question comme ça. Alors, l'ami Irouma m'a donné autre chose. Ah, sur BFM TV, ils ont un truc qui est peut-être mieux fait. Alors ça c'était en 2026 à Paris. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est par arrondissement. Je ne comprends pas ce que je regarde. Ah si, Sarah-Knafo, là d'accord. Pourquoi il y a Mariani qui est devant? Qu'est-ce que c'est que cette façon de calculer? Je comprends pas. Afficher tous les résultats, c'est peut-être comme ça? Pourquoi il n'y a pas de pourcentage? Ah mais non, mais il n'y a pas de résultat là encore affiché en fait. Bon, waouh, ça va être épique. Alors, la réponse de Grok. Oui, au début du XXe siècle, disons 1890-1914, les grandes villes françaises étaient généralement beaucoup plus à gauche que les petites communes, et surtout que les zones rurales. Ouais, bon, ça me paraît clair, hein. Dans les années 1890, les socialistes remportent de très nombreuses mairies dans les villes industrielles et ouvrières, Commentry, Lille, Roubaix, Marseille, Toulon, Limoges, Roanne, Calais, Sète, Montluçon. C'est ça. Hein. Et puis lors de la Commune de Paris, il y a eu dans beaucoup de grandes villes, il y a eu des répliques de la Commune de Paris. Donc il y a toujours eu cette agitation-là. Hein. C'est pas, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, c'est un. Et même c'est normal, hein, puisque on parle de populations qui sont Les nouveaux exclus sont souvent plutôt dans les villes, donc puisque la population rurale, par définition, elle est traditionnelle. Mathieu qui demande, penses-tu s'il y aura un second tour LFI-RN au second tour en 2027? Ah, la présidentielle du coup. Suivi d'une guerre civile car les gauchistes n'accepteront pas le résultat. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2020, alors si l'élection a lieu en 2027, on va dire lors de la prochaine élection présidentielle, si c'est le Rassemblement national qui gagne, ça risque d'être un beau bazar dans les rues, effectivement. Et si c'est si c'est LFI qui gagne, vous me direz aussi. Parce que je ne suis pas tout à fait. Il y a Victor Ferry qui a fait un. Bon, alors c'est un peu du. Ça doume un peu, hein, qui a fait un thread Twitter récemment sur pour imaginer une victoire de Mélenchon au deuxième tour face à Bardella. Mais la façon dont il le présente, honnêtement, n'est pas déconnante. Il y a un danger, danger réel. Effectivement, est-ce que en cas de deuxième tour Mélenchon-Bardella, des gens comme François Hollande, par exemple, iront dire qu'il faut voter Bardella? Non. Est-ce qu'ils diront qu'il faut s'abstenir purement et simplement? Grande question. Que même Glucksmann, qu'est-ce qu'il décidera Glucksmann? Est-ce qu'il expliquera pas j'aime bien, parce que Victor Ferry dit. Il dirait qu'en même temps, il crée des comités de vigilance pour surveiller Mélenchon. Oui, mais n'empêche que. Donc, c'est pas possible qu'on ait un scénario Allende comme ça en 2027. Mais ça nous éloigne du sujet même des élections des municipales, quoi. Parce que municipales, ce soir, ça donne pas grand-chose. Ça vous inspire quoi, vous? Ça vous inspire quoi? Florent Morillis, pourquoi l'écologie est une idée de gauche alors qu'en étant partisan de ZFE, les pauvres ne pourraient pas circuler dans les villes, les écolos sont-ils malthusiens? Non, monsieur, simplement, j'avais fait une émission dans le temps là-dessus, en expliquant que c'est surtout une idéologie clé en main pour les élites urbaines. Parce qu'en fait, c'est l'écologisme politique, en fait, glorifie ce qui est déjà le niveau de le style de vie des élites urbaines. C'est-à-dire que l'écologisme, ça vous permet d'expliquer que de transformer le fait que vous allez en vélo, simplement parce que comme vous vivez intramuros dans une ville, parce que vous avez les moyens de vivre intramuros dans une ville, vous pouvez aller à votre travail à vélo, et donc vous n'avez pas besoin de votre voiture, ça annonce, ça signale votre statut, le fait de pouvoir aller travailler en vélo. Ça veut dire que vous n'êtes pas loin de votre boulot, c'est-à-dire que vous avez de quoi payer, ça veut dire que votre boulot est en centre-ville, c'est-à-dire que votre logement est en centre-ville ou proche du centre-ville, suffisamment pour que vous n'ayez pas besoin de prendre la voiture. Si vous avez besoin de prendre la voiture, déjà c'est que vous venez de banlieue. Ou encore mieux, que vous vivez en France périphérique et que vous travaillez exclusivement en dehors de la ville. Et donc ça vous met, ben, ça vous qualifie comme péquenaud assez rapidement. Donc les seuls qui peuvent aller travailler en vélo tout en vivant en ville, ce sont les bourgeois urbains. Bien sûr, il y a aussi, je suppose, des gens qui peuvent aller virtuellement travailler en vélo quand ils vivent dans un petit village, parce qu'ils sont pas loin, mais pour aller faire leurs courses, ils ont besoin de la voiture, etc. Donc c'est plus compliqué que ça. Mais donc, ceux qui n'ont vraiment jamais besoin de conduire, en fait, en tout cas, et qui peuvent se contenter par leur vélo, c'est des bourgeois urbains. Et donc, l'écologisme, ça leur donne en plus un argument qui vient se joindre à ce qui est déjà leur style de vie, et qui vient oindre leur style de vie, si vous voulez, d'une supériorité morale. Parce que bon, si vous dites juste tu vas bosser en vélo, ben tu vas bosser en vélo, parce que tu peux aller bosser en vélo, tant mieux pour toi, quoi. Ça signale un statut économique et social pour toi, mais ça te rend pas moralement supérieur. Mais à partir où vous mettez de l'écologie là-dedans, ça transforme votre mode de vie en quelque chose de moralement supérieur parce que vous n'émettez pas de CO2, ou beaucoup moins que celui qui prend sa voiture. Et donc à partir de ce moment-là, l'écologisme est une idéologie, je dis clé en main, parce que ça permet au type qui déjà faisait ça de se dire qu'en plus, il est moralement supérieur par rapport à l'autre. Et donc c'est une idéologie clé en main des élites, parce que l'idéologie des élites, ça consiste en général à simplement glorifier ce qui est déjà leur mode de vie. Au Moyen Âge, vous glorifiez le mode de vie noble, hein, donc la chasse, tout ça, c'était bien, alors que le travail, c'était vilain. Bon, c'est une vision, si vous voulez, du monde. Et donc c'est pour ça que ça fonctionne avec cette population-là, et c'est pour ça que ça marche pas avec le petit peuple ou le peuple périphérique, parce que c'est une idéologie qui définit son style de vie comme étant ignoble. C'est-à-dire le contraire de noble. Et donc forcément, c'est assez difficile à avaler. Et là où vous voyez que c'est de l'idéologie d'ailleurs totalement, c'est que et que ça sert uniquement à flatter moralement ceux qui s'en revêtent, c'est que en revanche, le bobo, ça n'empêche pas d'aller prendre l'avion pour partir à Bali ou que sais-je pendant ses vacances. Et pourquoi c'est pas un problème? C'est là que vous voyez que c'est une question d'idéologie, de statut social. C'est parce que prendre l'avion pour aller en vacances à l'autre bout du monde, c'est un signe de haut statut social. Donc de toute façon, vous n'aurez pas honte, puisque le fond du fond, ça reste que prendre votre vélo signale votre statut social, plus que le côté moral. Voilà. Donc l'important, c'est avant tout le statut social et pas le côté moral. Mais vous utilisez l'écologie uniquement pour accroître votre côté moral. De toute façon, c'est du qui perd gagne dans ce sens-là. Voilà. Donc. Et alors, est-ce que les écolos sont malthusiens? Après, il y a autre chose, c'est que naturellement, quand vous vivez en centre-ville, je renvoie à ce que j'ai maintes fois dit, mais enfin, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, ça crée une perception faussée de ce qu'est la nature et du danger dans lequel vit la nature. Si vous voyez qu'un arbre, de temps en temps, et que vous vivez en permanence dans le béton, vous avez tendance à penser, parce que c'est votre instinct qui vous le dit ça, que la nature est en danger, forcément, parce que tout ce que vous voyez, c'est des petites plantes qui essaient de pousser dans les interstices des trottoirs, et alors du coup, ça fait de la peine. C'est pas la nature triomphante que vous voyez en ville. Si vous vivez au milieu de la nature triomphante, vous n'avez pas l'impression que. Si votre expérience de la nature, c'est surtout que dès qu'il y a un peu du vent un peu fort, vous risquez d'avoir une coupure d'électricité, ou un arbre qui s'abat sur la grange, ben, forcément, vous n'avez pas la même vision de la nature que celui qui voit juste au milieu de sa cour de béton une petite plante verte essayer péniblement de survivre, quoi. Ça, c'est une question d'expérience personnelle. Merci à Thomas Parian pour son don. La 5e République ou la 2e carrière de Brejnev. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas trop de municipales. Ah, sur le monde, il y a des résultats directs, mais pas pour toutes les villes. Alors, je vais aller voir ce que m'envoie l'Iromissime. Je vais essayer de vous l'afficher. Est-ce qu'on est en quelle boîte d'affichage? Je vais toujours comme ça, je ne suis pas sorti du truc, donc on va mettre ça. Tac. Alors. Saint-Pierre-Brest. Divers droite. Alors, dans les grandes villes. Ah, on a Toulouse. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Wow! Moche. Ah, mais il n'y a pas les scores. Mais est-ce que c'est quand même l'ordre d'apparition? Ou est-ce que c'est un. Non, oui, c'est pas un ordre alphabétique déjà. Ça m'étonnerait que toutes les listes de gauche arrivent devant la liste de droite principale, quand même. C'est bizarre. Donc j'en déduis qu'ils n'ont toujours pas les scores, en fait. Pour celle-ci. Voyons, on va aller à Paris où a priori, on a les scores. Non, ça s'affiche pas non plus. Très bien. Marseille. Ah, et. Alors, c'est pas toujours la gauche qui est en haut, donc j'en déduis que ça doit quand même mentionner un certain ordre de résultat, mais je sans aucun chiffre, c'est quand même un petit peu pénible. Qu'est-ce qu'il raconte sur BFM TV en ce moment? Je sais pas, je suis encore au niveau de la pub, ok. Alors, attends. Sergent 8059, merci pour le don. Ça m'inspire quand on va bien se faire chier. Comme quoi vous aviez raison, il y aura tout, mais nous serons déçus. Et oui, ça c'est la règle d'or de l'historionomie, hein. Il y aura tout, mais de la manière la plus décevante possible. Ah, Toulouse. Je vois quelqu'un qui met ça sur le Telegram. Je vais essayer de vous afficher. Mais je sais pas si je peux vous l'afficher ça. J'ai affiché. C'est qui parle là? C'est Payan et RN au coude à coude. Ah oui, Payan est remonté quand même, 36,70, et Franck Alizio, 33,60. Ah oui, c'est un mouchoir de poche. Alors, apparemment, quand même, de ce que je vois, où est-ce qu'il l'a mis? C'est Scap qui l'a mis. Non, nous aurions Jean-Luc Moudenc, le camarade Moudenkov, notre cher maire, à 38,8%. Piquemal à 27,3%, donc il n'est pas du tout en tête. Olivier Faure, tout à l'heure, a dit que la gauche était en tête à Toulouse. Il a cité Toulouse dans sa liste. Apparemment, c'est pas le cas. Donc il sera à 27,3% lui, et après pique mal, c'est LFI quand même, hein, putain. Le mec arrive deuxième avec 27% quoi. Et troisième le PS avec François Briançon, 24,1%, mais là ça pue quand même pour Moudenc, parce que on est à 51%, même 51,4% entre LFI et le PS quoi. Donc ça fait quand même une gauche qui serait majoritaire. Alors bien sûr, les deuxièmes tours ont leur surprise, mais petit danger, voire gros danger sur le règne du camarade Moudenkov. Je l'appelle comme ça parce que ça, c'est pas par amusement. c'est une blague familiale, on va dire. Paris, alors d'après les sondages Ipsos, nous avons... Alors attendez, je vais vous l'afficher aussi. Ici. Nous avons Emmanuel Grégoire qui arrive premier avec 36%, Rachida Dati 24%, Sophie Chikiro 13%. Bob Bournazel 11%, Knafo 9,7%. Elle est pas loin de ses 10% quand même, hein. Mais bon, c'est sûr, c'est pas le troisième homme quoi, comme elle espérait. Et Mariani, RN, 1,5%. Ouais, ça c'est la rouste. D'accord. Alors, moi, l'impression que j'ai eue des discours qui étaient mentionnés, c'était quand même poussé à gauche. Poussé malgré tout de la droite RN-UDR, on va dire, et surtout effondrement du centre. Bon, alors il n'y a jamais eu, il faut quand même se souvenir de ça, il n'y a jamais eu véritablement de macronisme local, hein, puisque les candidats macronistes n'ont jamais remporté de grandes villes, à part Édouard Philippe au Havre, mais enfin, il en était déjà maire avant. Mais on peut considérer effectivement que Macron a perdu encore une fois les élections, quoi, d'une certaine manière, puisqu'il a jamais réussi à créer d'implantation. Le mec est quand même fini, hein. Le mec finit. Je vais vous raconter quand même, comme pour s'amuser un peu, parce que c'est tellement chiant ce soir. Raconter une anecdote. J'en avais déjà parlé, je crois, dans le Telegram, mais je suis pas sûr que ça avait beaucoup réagi. Mes gamins, l'autre jour à table, et depuis c'est devenu une espèce de gimmick, j'essaie de les faire arrêter de dire ça, parce que c'est, je veux pas que mes enfants disent des gros mots, mais tout d'un coup, l'autre jour à table, ils se sont mis à chanter « Macron est con, Macron est con ». On ne parle jamais de... Chez moi, on parle pas de politique à table, hein, ça intéresse pas ma femme, donc on parle pas de ça à table, on en parle jamais. Donc c'est pas nous qu'ils ont entendu, et puis en plus on ne dit pas je dis pas ce genre de choses quoi. Pas devant les enfants en tout cas. Et donc je leur ai demandé où est-ce qu'ils avaient entendu ça, et apparemment c'est dans les cours de récré, les gamins ils disent ça beaucoup, semble-t-il, et je trouve ça intéressant. C'est quand même un signal de dire à quel point plus personne ne peut blairer ce mec quand même. C'est dans les cours de récréation, les gosses en sont à chanter Macron est con, Macron est con. Ça dit quelque chose sur ce que pensent leurs parents, déjà, parce que les gamins n'inventent pas ça. Mais apparemment, je pense que si ça devient une espèce de truc chez les gamins, c'est qu'ils doivent être quand même assez nombreux à répéter les mêmes choses. Et le mec n'a pas de parti, parce qu'il aurait pu, il y a un type comme ça, une fois qu'il a perdu le pouvoir, il peut continuer dans l'ombre à tirer des ficelles. Même Sarkozy a fait un petit peu ça. Bon, alors il a plus nuit à son propre parti qu'autre chose. Mais enfin, il y a des gens qui gardent une influence derrière, dans leur parti, comme ça. Macron, il va partir de là, il laisse aucun parti derrière lui. Donc il n'aura aucun moyen de continuer à contrôler un petit peu comme une ombre portée, si vous voulez, l'État français. C'est terminé. Le mec s'en va, il y a des mecs qui l'a nommé, mais une fois que les mecs sont nommés, si le type n'a aucune incidence et qu'il n'existe plus politiquement, il n'existe plus. Et je pense que s'il espère se refaire une espèce de cerise au niveau européen, il rêve parce que personne n'en voudra. Donc, véritablement, on est dans une fin de règne totale et cette élection municipale, finalement, avec une absence totale de candidats macronistes en bonne position quelque part, à part encore une fois Édouard Philippe qui arrive à survivre, semble-t-il. Enfin, on attend de voir le second tour, mais bon, à 43% au premier tour, quand même, il a une dynamique favorable. C'est qu'on a un Macron qui est déjà fini, quoi. Et la question pour moi, c'est pour ça que je disais malgré tout que ce moment va être intéressant. Alors peut-être que j'ai été un peu. Que j'étais. Non, j'étais pas particulièrement enthousiaste à l'idée de faire l'émission de ce soir. Mais c'est vrai que je suis plus habitué, notamment parce qu'on en vit plus souvent, mais en plus j'ai toujours suivi ça plus, au premier tour de législatif, parce que les premiers tours législatifs, ça dit toujours quelque chose. Donc on a des résultats, voilà. Premier tour de municipal, en fait, pas tellement, parce que. La réalité, c'est que y a beaucoup, beaucoup d'endroits où ça se joue au deuxième tour. Donc, en fait, je pense que c'est la semaine prochaine qu'on commencera à voir des choses intéressantes. Et dans l'entretemps, on va essayer de voir comment déjà la chose pèse sur Macron lui-même, justement, et sur le gouvernement. Parce que d'après ce que j'ai entendu en début de soirée, je sais plus qui disait ça, c'était quelqu'un sur BFM TV, qu'apparemment le gouvernement, donc de Le Cornu, avait diffusé à ses membres pour consigne de ne pas s'exprimer sur les municipales. Peut-être parce qu'ils savent que c'est pas un excellent moment pour lui, quoi. Et donc je voudrais faire lire ce tweet-là qui me paraît assez juste, ce qui rétablit le compte. Au fond, Macron a officiellement perdu les européennes deux fois, oui, 2014-2024. 2019-2024, les régionales, les municipales, dont la mairie de Paris, les départementales, 2021, les législatives, deux fois, 2022 et 2024, c'est vrai, la présidence de l'AMF. Ça, je sais pas ce que c'est. Il n'a jamais été véritablement élu de quoi que ce soit. Alors ça, je dirais pas ça. Mais il y a quelque chose du genre. Et aussi et surtout, on est quand même face à quelqu'un, c'est quand même fascinant, qui a écrit un bouquin qui s'intitulait Révolution, que j'ai d'ailleurs, que j'ai jamais lu. Il faudrait que je le lise, ça se trouve, rétrospectivement, il doit y avoir des trucs intéressants à l'aune de ce qui se sera passé entre-temps. Mais le mec a été élu, ouais, il y a 9 ans. Et avec un bouquin qui s'appelait Révolution, et le mec a strictement rien fait, quoi. Même la seule réforme qu'il a fait, c'est la réforme bidon des retraites, qui est suspendue actuellement, parce qu'il voulait garder le contrôle du. Et ça peut créer des problèmes, parce que le mec, il y a plus guerre qu'avec une guerre qui peut exister. Mais c'est assez pathétique. Alors voyons, qu'est-ce que vous avez d'autre pour moi? Il n'y aura pas d'accord national entre LFI et le PS, assure Olivier Faure. Oui, mais on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils n'assument pas au niveau national qu'il y aura des accords locaux partout avec LFI, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'ils vont pas s'entendre au niveau national, mais au niveau local, il y aura des accords absolument partout où c'est nécessaire, hein, ne serait-ce que pour survivre. Ils le font toujours. La gauche n'a jamais peur de s'allier avec ses plus radicaux pour prendre les places. Hein. Faut pas déconner, il faut pas être naïf. Hein. Donc bien sûr qu'ils le feront. Alors, ouais, je cherchais l'historique des municipales, mais c'est surtout pour savoir. Ah oui, l'AMF, Association des maires de France. Oui, je suis bête. Moi, je pensais à l'autorité des marchés financiers. S'en fout un peu, mais oui, effectivement. Effectivement. Bien vu. Alors, qu'est-ce qu'il m'a noté? Oui, le centre est totalement absent, Romain. Il n'y a pas de maire. Mais en même temps, encore une fois, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu parce que Renaissance. Et avant ça, La République en marche, et avant ça, En marche, c'est des gens uniquement dans la perspective d'élections législatives. Et ces élections législatives, elles ont eu lieu, donc, avec un effet, grosso modo, c'était mi-recyclage de gens du PS, des chèvres, des nouveaux types qu'on connaissait de nulle part et qui ont été élus. À l'époque, on aurait fait élire une chèvre, quoi. Et après ça, donc les élus locaux qu'il y avait dedans, c'était des gens qui venaient du PS en général, mais qui avaient souvent pas de poste localement, parce que localement les gens ont gardé l'étiquette PS. Et donc là maintenant, et pendant les 9 dernières années, donc comme il a été rappelé par ce tweetos, Emmanuel Macron n'a jamais réussi. N'a jamais gagné une élection locale. Donc les candidats macronistes n'ont jamais réussi à monter. Et par conséquent, il n'y a aucun maillage local de. Et donc il n'y en aura jamais eu, en fait. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de maillage local parce que soit c'est les socialistes historiques qui ont tenu, soit vous avez eu des endroits qui ont été pris par les écolos pendant ce temps. Mais les macronistes ont réussi à prendre aucune ville. Parce qu'il n'y a jamais eu cette assise locale. Donc c'est normal que dans cette élection-là, il n'y ait pas d'assise locale. Donc ça sonne pas vraiment comme une défaite, mais en même temps, ça sonne comme une absence. C'est-à-dire ça souligne à quel point le pouvoir macronien n'a jamais eu d'assise locale, quoi. À quel point, ben, il reste justement, d'une certaine manière, hors sol. Très clairement. Et puis ça arrive à finir Macron éco dans les cours de récré. Mais très honnêtement, encore, moi je maintiens hein, qu'on est dans ce processus de mutation révolutionnaire. Je ne sais pas exactement quel est le rôle qu'auront les municipales dedans. Ça pourrait créer quelques agitations. Vous avez des endroits où s'il y a des mairies qui basculent le LFI, ça pourrait changer quelque chose. Roubaix, ça sera quand même symbolique de quelque chose, je pense. Maintenant. Maintenant, ouais, si on surfait la séquence, c'est vrai que ça traîne. C'est vrai que ça traîne. Si Emmanuel Macron arrive à terminer son mandat, je pense qu'on pourra considérer que c'est le résultat direct. Du fait que la motion de censure a échoué en mars 2023, au moment de la réforme des retraites. Parce qu'à ce moment-là, si la motion de censure avait fonctionné, avait fait tomber le gouvernement Attal, il est vraisemblable qu'il aurait été obligé de dissoudre beaucoup plus tôt que ce qu'il a fait. Et en plus, il y aurait déjà eu une première motion de censure sans élection préalable. Et à ce moment-là, peut-être que les tensions qui sont apparues fin 2024 auraient poussé à la démission de Macron, alors qu'il a réussi à survivre à cette séquence-là finalement. Donc on est visiblement dans de la contingence là-dedans. Mais c'est pas illogique, hein. Maintenant, il va falloir voir ce que donne le deuxième tour, et puis ce que donneront les séquences suivantes. À partir de ce qui va se passer dans le monde, parce que il faudra voir. Je renvoie à la dernière émission de vendredi. Qu'est-ce que ça donne les trois d'Hormuz? Est-ce que le prix de l'essence reste aussi élevé? Alors quelqu'un m'a fait remarquer très justement dans les commentaires de la dernière vidéo que le certificat énergie existait déjà avant le 1er janvier. Qu'ils n'avaient pas mis d'un coup 17 centimes par litre, mais que c'était 11 centimes par litre et qu'ils l'ont passé à 17. Donc ils ont augmenté de 6 centimes, un petit plus 50%, ça fait pas de mal, ou 55%. Mais ça fait quand même partie de l'augmentation du prix de l'essence. Moi, quand j'y pense, vous savez, j'ai acheté mon premier véhicule diesel, qui est toujours ma voiture aujourd'hui d'ailleurs, en 2016. Elle était déjà d'occasion en 2016, donc c'est un truc qui doit avoir, elle doit avoir 12 ans, un truc comme ça. Et j'avais toujours entendu dire que le diesel c'était mieux parce que c'était moins cher. Effectivement, c'était moins cher. Je crois que c'était à 1,10 à l'époque le diesel. Et j'ai tellement pas eu de bol que je crois que c'est dans les mois qui ont suivi qu'ils ont commencé à faire la guerre aux particules fines, etc. et donc a supprimé l'avantage qu'avait le diesel sur l'essence. Donc le diesel a fait un bond. Et là, maintenant, je me suis aperçu que le diesel est carrément plus cher. C'est-à-dire que dans les stations-service devant lesquelles je suis passé aujourd'hui, le diesel est à plus de 2 euros, alors que l'essence, samplon 95 et 98, est juste en dessous, à 1,98 ou un truc comme ça. Mais voilà. Après des décennies à favoriser le diesel, il a suffi que j'achète une bagnole diesel pour qu'il change le truc. Les enfoirés. Et donc j'ai fait aucune économie substantielle en roulant au diesel, quoi. Oudu Santini, il est toujours vivant? Oh là là. Ah, parce qu'on se souvenait de sa tête ronde là maintenant, il est tout maigre. Et, ah oui, mais alors je déteste ce tweetos Philippe Duval, c'est le demi-habile incarné, mais. Sorti de l'hôpital en fauteuil pour le premier jour, tour largement en tête ce soir. Il est maire d'où déjà lui? Après, c'est dingue, oui, c'est le. Les mecs, ah oui, alors vous voyez, la tête de Santini à la base c'était ça. Là, maintenant il est comme ça. Donc il est pas frais. Ah, ici les moulineaux, d'accord. Eh ben, vous voyez, comme quoi le mec tient sa place, quoi, quand même. C'est extraordinaire. C'est le. Alors je dirais le règne des boomers éternels. Alors c'est pas vraiment un boomer à quelques années près, mais presque. Alors, qu'est-ce que vous me dites d'autre de déprimant? Pas grand-chose en fait, hein. D'en vivre la RN peut-être, il y a des choses. Dans le 93, un taux de participation qui est en augmentation, il semble-t-il. Est-ce que c'est LFI qui arrive à mobiliser le public de Nouvelle-France, je sais pas. Il en a parlé, Bompard, dans son comment ça s'appelle, dans son discours. On parlait de la menace fasciste aussi. Philippe Erlin qui commente sur Twitter, pourquoi autant d'abstention? Je vais vous le rafficher du coup. J'essaie de faire le tour, hein. Je fais un peu de revue de presse, hein, parce que. Une fois que vous avez compris, hein, parce qu'en fait, je pense que vous avez compris, la plupart des grandes villes, la gauche est en tête. Si elle n'est pas en tête, elle a de bonnes chances de passer. Donc ça se trouve, il y aura encore une vague gauche plus raide qu'avant. C'est-à-dire pas de la gauche écolo, de la gauche plus dure. Donc attention, Antifa dans les rues, hein, ça se trouve, comme dans la mienne. Pour autant, abstention, vote soviétique, égalité homme-femme, interdiction du panachage au nom de la parité. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est ces questions de parité dans les élections, c'est une catastrophe. Dans les deux tiers des communes, il n'y a qu'une seule liste. Ouais, mais c'est aussi parce que la France. Là, je trouve ça. La France en plus en plus à l'URSS. Faut pas déconner. C'est surtout que les deux tiers des communes, il y a 36 000 communes en France. C'est hyper morcelé, le paysage communal français, le paysage municipal. Et il y a beaucoup de pays voisins dans lesquels il y en a, alors je sais pas, 10 fois moins, mais enfin il y en a beaucoup moins. Je crois qu'en Angleterre, il doit y en avoir, pour une population équivalente, il doit y en avoir à peu près 10 000 ou un truc comme ça. Et donc vous avez beaucoup de gens qui disent qu'il faut ramasser les communes, en fait, pour qu'il y en ait moins. Mais la réalité, c'est que la plupart des toutes petites communes, et c'est l'essentiel, c'est en fait ce que vous avez, c'est des gestionnaires bénévoles de la mairie, quoi. Et donc personne ne veut y aller, personne ne veut s'en occuper. Voilà, il n'y a pas d'argent à se faire, il n'y a pas de choses comme ça. Donc je suis pas sûr que comme raisonnement ce soit très 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 juste, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Vous avez un petit village de 100 habitants, vous savez qui est le maire dès le premier tour. Ben oui, parce que si c'était un autre, vous auriez su s'il y avait une vraie concurrence. Mais il n'y en a pas forcément. Mathie qui demande, comment se fait-il que la mort de Quentin par des assistants parlementaires LFI n'ait pas joué? Merci pour vos super lives. Parce que les électeurs LFI et de gauche en général n'ont rien à foutre que les antifas tuent des gens. C'est pas de la force. Voilà, le type qui est mort était un nazi, donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Faut pas attendre que les types s'excusent. D'ailleurs, est-ce que vous les avez vus s'excuser? Vous avez vu Mélenchon s'excuser de ça? Non. Bon, ben voilà, ben, c'est comme ça. Hein. Donc non, ça joue pas du tout. Ça joue pas du tout, surtout pour un premier tour de municipal. Éventuellement, si vous voulez chercher un effet, vous aurez peut-être un effet sur l'électeur médian. Auquel cas, peut-être qu'au second tour, ils perdront quelques pourcents et que ça les empêchera de gagner ici ou là. Peut-être. Mais à un premier tour où c'est essentiellement du vote d'adhésion, ben évidemment que ça baisse pas parce que les gens qui adhèrent déjà à LFI, ils vont pas changer leur vote LFI juste parce que y a eu l'affaire Quentin. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte en ce moment sur BFM? Emmanuel Grégoire a gonflé encore son score. Il est à 38,70%. Et Sarah Knafo, ça baisse. Elle est à 9,60. Voilà. Ça paraît assez plié, hein, parce que si vous additionnez Chikirou et Emmanuel Grégoire, on est déjà à 50%. Alors bien sûr, après, il y a les questions de. Il y a quand même du réservoir de voix au niveau abstention, mais ça paraît pas assez pour faire gagner. Pour faire gagner Rachida Dati, hein. Non, je pense que de toute façon, à Paris, c'est ça qu'ils veulent, les mecs. À Paris, il reste quoi? Il reste les électeurs qui ont déjà élu Anne Hidalgo, tous les gens partout dans les HLM que Hidalgo y a mis. Donc à partir de là, c'est une ville qui se sabote. Ça, moi, je comprends. Je reste sur l'idée, effectivement, que Paris devrait pas avoir de maire. Mais ce qui a été le cas pendant 200 ans. Je vois pas pourquoi on revient là-dessus. Ça sert à rien. C'est une catastrophe. Il a suffi de 30 ans à cette ville, depuis qu'on a restauré sa possibilité d'élire son maire, pour que ce soit une catastrophe. Donc, je vois pas. Alors, Aulas, oui, finalement, qui était censé emporter la mairie du premier coup. C'est quoi? Il en est où, lui? Ça s'affiche pas. Attendez, je vais essayer. Mais le problème, c'est que si je vous l'allume, BFM TV, on risque de se faire. Non, on va pas se prendre des strikes, si, peut-être. On va éviter. Mais après, oui, clairement, quand vous avez une ville qui est aussi grande, aussi importante sur l'avenir du pays, où vous avez tous les bâtiments du gouvernement dedans et tout, c'est problématique, quoi. D'une certaine manière, Paris doit appartenir à tous les Français. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on lui a reproché de ne pas être le cas après la Commune, où justement les Français ont été obligés de venir réprimer Paris par la voix de leur armée, quoi. Bon, très honnêtement, je sais pas vous, moi je m'emmerde. Parce que c'est assez pénible. Là, j'attends de voir quelle est. Attends, on va chercher directement, ce sera plus simple. Peut-être dans le. Peut-être là, peut-être que ça y est maintenant. Non, il n'y a toujours pas les scores. Mais il est nul ce site du monde là. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette daube? Il n'y a rien qui s'affiche en fait. Ah, accéder au scrutin. Il faut le faire là. Ben oui, mais alors quoi? C'est naze. C'est nul. Bon, on va taper Lyon. Lyon. Il y a un gars qui dit, notre petit filou, il est bien meilleur sur la politique nationale que sur la géopo. J'ai littéralement rien dit ce soir sur la politique nationale. J'ai peut-être dit que les enfants disent Macron est con, alors ça vous fait plaisir parce que c'est ce que vous pensez déjà. Encore une fois, le problème c'est que la plupart des gens jugent ce que je dis en fonction de s'ils sont d'accord ou pas. Et s'ils sont d'accord, ben, ils trouvent que c'est génial. S'ils sont pas d'accord, ils trouvent que c'est nul. Au lieu de réfléchir, de savoir si ça se tient la route. Les deux candidats à égalité avec 37,5% des voix devant l'insoumise Anaïs. Mais là, ça. 37,5 les deux, ça fait quand même du 75% au total, donc ça laisse pas effectivement grand place. Ouais, ok. Bon. Bah écoutez, hein, bah, je suis même pas sûr que ce soit la peine de s'accrocher pour arriver à parler pendant 1 heure. C'est tout ce que j'avais à vous dire, et puis on verra la semaine prochaine. Voilà. Je reste quelle part la guerre en Iran est quand même beaucoup plus intéressante à ce Ah oui, Nice, vous voulez voir Nice? Bon, alors on va voir Nice. Nice, mais Ciotti était en tête avec un beau score, mais à mon avis, ça passera pas au deuxième tour. Ça passera pas au deuxième tour parce que il risque de se cogner un front, vous voyez, 42,60, très beau score pour Eric Ciotti au premier tour, qui écrase Estrosi à 31-30%. Le problème, c'est qu'au deuxième tour, c'est quoi déjà le seuil pour se maintenir au municipal? Je sais plus. C'est quoi? Ah, c'est 10%. Voilà, c'est bas, oui. C'est bas. Donc, la liste, la Uni pour Nice, ils peuvent se maintenir. Ah, pas mal ça. Ciotti a peut-être une chance. Si la gauche se maintient. Si la gauche se rallie à Estrosi pour faire chier Ciotti, il peut perdre. Il peut perdre. Mais il faudrait qu'Estrosi arrive à récupérer les voix d'LFI et les voix de gauche. Ce qui n'est pas forcément dit dans un scrutin local. Le barrage, je pense que ça fonctionne un petit peu moins bien qu'au niveau national quand même. Voilà. Voilà. Bon, ça reste du. C'est pas hyper passionnant, quoi, tout ça. Bien. Ouais, juste pour terminer là-dessus, hein, pour reparler de. J'écoutais sur BFM TV, ben juste avant que ce soit les. Que soit l'heure qu'il lance les municipales. J'ai écouté un petit peu ce qu'il disait sur l'Iran. Il y avait une journaliste de Libération qui arrêtait pas de dire que Trump s'était lancé dans son truc, il savait pas comment sortir tout ça, qu'il espérait que ce serait réglé en 3 jours. Heureusement, il y avait Didier François qui lui précisait, les Américains ont prévu des munitions pour 50 jours d'opération. Hein, donc ce qui est... et je trouve ça extraordinaire. Vous avez l'armée américaine qui prévoit pour 50 jours d'opération. Vous avez Donald Trump, au moment où il annonce au peuple américain dans son allocution télévisée le début des hostilités, Donald Trump annonce qu'il y en a pour 4 ou 5 semaines d'opération et qu'il y aura sans doute des morts parce que c'est une vraie guerre. Et vous avez tous les gens qui viennent de vous expliquer, il espérait que ce soit réglé en 3 jours, c'est un canard sans tête, il sait plus comment faire, etc. J'ai trouvé ça délirant. Et donc je me suis dit qu'il fallait aussi que je vous dise 2 mots sur ce qui est un petit peu sorti, sur cette idée de coalition, vous savez, pour tenir les trois d'Ormuz. Alors là, vous avez les mecs qui commencent à expliquer, ça y est, c'est parce qu'ils sont complètement débordés, ils savent plus comment faire, donc ils ont besoin, ils appellent à l'aide, les Américains appellent à l'aide. Je pense que c'est pas tellement ça. Je pense que c'est surtout que les Américains n'achètent pas de pétrole qui vient du détroit d'Ormuz. Ils savent très bien que c'est le reste du monde qui a besoin de ce pétrole-là, notamment les Européens, mais pas que. Ça pèse sur le prix de ce qu'achètent les Européens, mais c'est surtout les Asiatiques qui ont besoin de ça. Et donc, il veut encore une fois faire ce qu'il fait avec la force impériale en général. C'est nous, on sera là en soutien. Par contre, c'est à vous d'assurer le truc. Et donc je pense qu'il va organiser ça. Il va essayer de le faire notamment probablement via le Conseil de la paix. Donc à mon avis, on va sur des trucs comme ça. Mais encore une fois, j'hallucine sur l'hostilité et la rapidité à conclure, encore une fois, à part quelques individus, il y avait Didier François, il y avait Dutartre aussi, l'ancien général, ou c'est un amiral, je sais plus. Qui appréhendait ça de manière sérieuse. Tous les autres sont une espèce de wishful thinking négatif à l'encontre des USA qui est assez hallucinant. Voilà. Ben écoutez, je pense qu'on va arrêter, hein, parce que ah oui, on va quand même aller voir à Tarbes. Est-ce qu'on a des résultats de Tarbes pour faire plaisir à notre cher Léo qui est toujours là, toujours l'ombre portée derrière cette chaîne. Voyons. Puis on va arrêter là-dessus. Résultat. Le résultat. La liste Tarbes, le temps du changement, menée par Eric Pérenne, arrive en tête. Avec 3089 voix. Soit 23%. Elle devance Tarbes naturellement. 19%. Tarbes, la force d'agir. De 17,60%. Ok. Bon, bah écoutez, oui, je me rends pas bien compte de quel bord ils sont. On n'a pas de truc avec des couleurs. Les 20 minutes a l'air de penser qu'on sait forcément qui sont tous ces gens, mais c'est pas forcément le cas. Ah, il y a Estrosi qui parle. Il a l'air énervé. Ouais, bon, il est sur l'égalité des chances, des trucs comme ça. Bon, très bien. Bon, Hiruma me reproche de ne pas regarder le télégramme. Excuse-moi, je vais te voir, mais il se passait tellement pas de choses. Alors, voyons, tiens, ça va peut-être des trucs. XXXXVK, d'accord. La forte hausse de LFI dans les grandes villes ne préfigure pas la victoire des populations des quartiers actuellement exclus du clivage en douceur et sans révolution. Pour l'instant, c'est peut-être en douceur et sans révolution. Mais je continue à penser que pour l'instant, l'électorat d'LFI, c'est plutôt du blanc bobo plus que les quartiers. Hein. Mathy, comment se fait... message, il l'a déjà dit. Renaud de Chatouillon. c'est marrant comme pseudo. Quel mode de scrutin aurait été intéressant à mettre en place dans l'optique d'inspirer la suite de la 5e? Proportionnel, panachage, vote par approbation, jugement majoritaire. Pour la suite de la 5e, à mon avis, la proportionnelle serait quelque chose de plus carré. C'est ce qui se fait le plus en Europe. Le jugement majoritaire, je crois pas que ce soit très 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 pratiqué. Grâce à l'électeur de la gauche, Nicolas qui paye sa taxe foncière, va-t-il réagir? Ça, je sais pas. Les gens, comment dire? Les révoltes sur taxes foncières, on en voit peu. On n'entend plus parler aussi de Nicolas Kipé depuis un moment. Il y a quand même une espèce de lassitude. On a l'impression depuis 6 mois, depuis l'affaire Le Cornu, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas analysé ça sur le fond, mais l'impression qu'on a depuis l'affaire Le Cornu, vous savez, quand il est venu, puis qu'il est parti parce qu'il a démissionné, puisqu'il a été renommé, et qu'ensuite il y a eu tout ce truc sur le budget et tout. On a l'impression qu'il y a une espèce de cap qui a été franchi, en fait. Par rapport à la population française, si je devais l'analyser aujourd'hui, sur le moment, j'ai pas pensé comme ça. Mais là, on est 6 mois après, on a une participation municipale qui est moindre que ce qu'elle était en 2014. Et on a toujours dit que c'est l'élection préférée, en plus des Français et tout ça. On se demande s'il n'y a pas un ressort qui s'est cassé, en fait, vous voyez, un truc, je ne sais pas si on est dans une espèce de désillusion post-truc, où les gens sont résignés. Alors peut-être aussi en colère, mais une colère qui trouve pas comment s'exprimer et qui attend qu'on lui donne des élections dans lesquelles elle peut en parler. Parce que mine de rien, encore une fois... les municipales, c'est pas du tout les enjeux nationaux, quoi. C'est véritablement une élection quand même un petit peu différente. L'enjeu est local, alors on lui donne un enjeu national et il peut en avoir un. Et on voit qu'ils ont tous essayé de le rattacher à ça, d'ailleurs. Presque parler de montée du fascisme, enfin, le fascisme municipal, c'est quand même. Ça va quand même pas très loin, quoi. Alors ça je vais vous le vous le mettre parce que c'est quand même pas mal. Attendez. C'est exceptionnel ça. Attendez. Je vous l'affiche. Ça c'est fabuleux, on va s'arrêter là-dessus, je crois c'est tellement ancien régime. La Corée du Nord n'oserait pas, à l'exact moment où nous avons, à l'exact même moment, nous avons quatre membres d'une même famille pour commenter les municipales de 2026, du jamais vu. Le fils Benjamin Duhamel sur France 2, le père Patrice Duhamel sur LCI, la mère Nathalie Saint-Gricq, France Info, l'oncle Alain Duhamel, BFM TV. C'est tellement cette. Ah, c'est tellement. Ah, je peux rien dire de plus. Qu'est-ce que vous voulez que je commente de plus intéressant là-dessus? Ah, Renaud Chatouillon dit, j'aurais dû préciser ma question portée sur le mode de scrutin des municipales. Non, ça, je vois pas pourquoi ça changerait trop, parce que les municipales. Ah, mais si, ils ont instauré cette histoire-là du truc que. Alors, je sais plus, ça a été instauré, ça, ou pas? Le fait qu'on élise le maire directement. Vous savez que ce soit plus le conseil municipal qui vote. Je vais poser la question à Grok, ça a été instauré ça? Qui fait que les électeurs élisent. Parce que j'ai pas trop compris ça. Directement. La maire est-elle en vigueur? Ah voilà. Elle n'est pas en vigueur. Le système reste le même qu'avant. D'accord. Donc on vote au suffrage universel direct pour élire les conseils municipaux et ça reste une élection indirecte puisque c'est les conseils municipaux qui élisent le maire. Mais il était question de le tenter, non? Ah oui, des ajustements spécifiques pour Paris, Lyon et Marseille, réforme PLM d'août 2025, désormais deux bulletins distincts, un pour les conseils d'arrondissement secteur, un pour les conseils municipaux centraux. Avec une prime majoritaire réduite, mais toujours pas d'élection directe du maire. D'accord, donc ils l'ont pas mis en place. Mais il était question qu'ils le fassent. D'accord, donc ouais, donc moi pour moi, voilà, élire les. Non, ça me paraît pas. Je vois pas de priorité à changer ça. La duhamélisation de l'ancien régime, mais c'est complètement ça, quoi. Je suis vraiment. J'hallucine sur ce truc-là. Ça dit tout, ça dit tout. Franchement, je peux pas aller. Lisnard réélu à Cannes avec 80%. Tant mieux. Iroma qui me dit, je stoppe les questions. Je savais pas trop si je devais en prendre beaucoup. Non, tu pouvais prendre les questions qu'avaient les gens, mais franchement, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, on a fait 1 heure et je suis pas sûr que ces élections méritent plus. Ça fait déjà 1 heure que le film avec Danny Boone a commencé sur TF1 et j'ai envie de dire que ça dit bien l'intérêt fascinant qu'il y a pour tout ça. Voilà. Là maintenant, ils doivent être en train de discuter de qu'est-ce que ça va donner au deuxième tour. Eh bien écoutez, on se posera la question au deuxième tour, on rediscutera là. On analysera un petit peu quel est le climat dans la semaine. Et puis voilà. Je serai peut-être absent le week-end prochain, pas le dimanche soir, donc de toute façon, on fera une émission là-dessus. Après, je sais pas, peut-être que l'émission hebdomadaire sautera, j'en sais rien. Je vous tiendrai au courant dans la semaine, je ferai un post et je le dirai sur le Telegram. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Moi, ça m'a fait plaisir toujours d'être en votre compagnie. Mais voilà, on va pas se forcer et tirer désespérément. Si c'est sans intérêt, vous pouvez quand même mettre des petits pouces, ça aide toujours. Je vous dis merci de votre présence. À bientôt. Et vous laissez pas faire.